à tous sur Europe 1 en 2020. 2020, Europe 1, ça rime. C'est toujours Mathieu Béliard. Ici, l'info du jour, c'est mon retour. Mon retour. Et oui, je me suis échappé de mes vacances comme Carlos Ghosn, mais moi, c'est... Voilà. J'ai voyagé, je suis revenu de vacances. Forcément, l'actualité qui a énormément changé avant les vacances, vous le saviez, chers auditeurs. Il était question des grèves. Et là, eh bien, on va parler des grèves. Voilà, si c'était pour dire la même chose, on aurait pu rester au lit une semaine de plus. Parce que là, Europe 1, c'est, vous l'avez compris, regarde le monde stagner. L'info du jour, c'est aussi cette bonne nouvelle. Les grèves continuent grâce à la grève. Vous connaissez chaque jour, chers auditeurs, les joies du vélo ou de la marche pour aller au bureau. Et oui, grâce à la RATP, on va vite perdre nos kilos pris pendant les fêtes, en marchant, en pédalant. Donc merci une fois de plus aux grévistes. L'autre info du jour, c'est aussi le comeback. Julie de l'écharpe bleue électrique, bleu corporel.
Bleu Europe 1.
Bleu Europe 1, qui cette année, c'est notre résolution, sera vendue à la boutique officielle d'Europe. Et pour 5 euros plus, parce que je suis très très corporel, je suis prêt à vous les dédicacer perso. Voilà, à vous Julie. Si, chers auditeurs, je vous fais une confiance, c'est une Julie reposée que j'ai en face de moi, une Julie remontée, qui a passé de bonnes vacances, dont je ne dévoilerai pas le lieu, discrétion oblige. Alors, chère Julie, c'était bien le sultanat d'Oman?
C'était magnifique. Allez, on enchaîne. Les grèves sont les plus longues que le pays ait connues. Même les records de 95 sont battus. On va en parler avec Alain Juppé. Bonjour, monsieur Juppé.
Bonjour à tous. Bonjour à votre sympathique équipe. Et salam alaikum à Julie la gazelle. Sultanat d'Oman oblige. Bonne année 2020 à vous, chers auditeurs.
Bonne année à vous aussi.
Chère équipe technique d'Europe 1, toujours au taquet, prêt à sortir langue de belle-mère dès que l'occasion se présente.
Très bien. Alors, vous avez passé de bonnes fêtes, monsieur Juppé?
Écoutez, oui, écoutez, on s'est fait un petit réveillon au Conseil constitutionnel. Alors, très simplement, d'abord, l'infirmière nous a légitimement distribué des chapeaux coniques en papier.
Oui.
Après, nous avons eu nos droits, notre traditionnel soupe de potiron à 17h30. Des huîtres, très agréable. Oui, écoutez, c'est pas trop dur à mâcher, donc c'est un plat typiquement au Conseil constitutionnel. À 18h30, le zapping des animaux rigolos sur C8. Nous avons regardé avec le président Giscard d'Estaing. Et à 20h30, la fiesta. On a mis du Maurice Chevalier à fond la caisse.
Ah oui,
Prosperio Plavum,
oui,
j'ai encore la musique en tête. Nous avons varié parce que nous avions trois salles différentes. Donc il y a une salle qui diffusait du Maurice Chevalier, une autre dans laquelle nous avions du Franck Michael.
Ah, très bien.
Et puis, pour plus de classicisme, certains ont dansé sur du André Rieu. Voilà. Nous étions tous couchés à 21h. Je ne sais pas si je dois le dire, nous étions raide bourrés à la verveinemente. Non, écoutez, au constitutionnel, ils n'avaient jamais vu une teuf comme ça. Et puis après, dans mon lit, c'est vrai que j'ai longuement pensé au suicide.
Oh non, attendez, s'il vous plaît. Alors revenons aux grèves, c'est devenu pire qu'en 95, ça va durer au minimum 2 fois plus longtemps. Quel conseil vous donneriez à votre successeur Édouard Philippe, Alain Juppé?
Écoutez, pour moi, 95, autant vous le dire, ça a été, parlons trivialement, le début des emmerdes. Écoutez, regardez, ma carrière ensuite, ça a été un drame. Alors, avec des grèves qui durent 2 fois plus longtemps, la carrière d'Edouard Philippe devrait être 2 fois plus merdique. Il faut parler crûment. Je prends sur Europe 1 aujourd'hui, les gens sont prêts à entendre les choses. Disons un exil au Paraguay, je prévois un exil au Paraguay pour Edouard Philippe. Peut-être un retour comme ministre des anciens combattants d'un gouvernement piloté par Nadine Morano un jour, avant peut-être d'être mise en examen pour des faits commis par Emmanuel Macron, et puis ensuite l'enchaînement classique, la drogue, la rue, la prostitution. Voilà le destin que je dessine.
Rien que ça, dites donc.
Philippe.
C'est joli.
Donc je ne sais pas s'il m'entend. Édouard, si tu m'écoutes, laisse tomber. Laisse tomber, même si j'ai entendu Stanislas Guérini très motivé ce matin sur votre antenne. Non, laisse tomber, ça ne vaut pas le coup de te gâcher la vie parce que ton patron veut se faire Philippe Martinez. Non, écoute-moi, Édouard. Écoute-moi, je sais que j'ai ton oreille, plaque tout, prends des vacances, fais pas la même connerie que moi. Je le paye encore aujourd'hui. Tu entendu mon réveillon.
Allez, bon courage à vous, monsieur Juppé.
Merci.
On va accueillir le président de la République, Emmanuel Macron. Bonjour et bonne année.
Et bonjour à toutes et à tous.
Bonne année à tous les Françaises et les Françaises, à celles et ceux et celles qui travaillent, qui ne sont pas en grève, ceux qui écoutent, celles et ceux, chacun, chacune qui écoute Europe 1. Enfin, surtout à ceux qui vivent, je dirais, dans les Dom-Tom. Bonne année. Parce que pour les Français de métropole, vous l'avez compris, c'est le bazar, voire même le bordel. Et pour les Parisiens, c'est peut-être même l'enfer. Ou alors, j'ai envie de dire bonne année 2021.
Ah bon hein
ouais. Oui, bah écoutez, de 2020, nous l'avons compris, on fait une croix dessus. 2022, par contre, ça va être sympa puisque je vais me représenter. Mais 2020, soyons lucides. 2020, bonne année 2020, non, on laisse tomber.
Alors, on lit partout que c'est une semaine cruciale pour les retraites, hein, monsieur le Président.
Alors, j'entends partout sur les antennes, non seulement d'Europe 1, mais de certaines radios concurrentes.
Oui, d'Europe 1, pardonnez-moi.
Oui, c'est vrai que je suis. Ne me prenez pas pour un imbécile. C'est une semaine cruciale. J'entends partout, c'est une semaine cruciale. Alors, je dois éclairer la lanterne de nos auditeurs, de vos auditeurs. C'est la huitième semaine cruciale pour la réforme. Mais comme on a raté les sept autres, celle-là est plus cruciale que les autres. Enfin, surtout pour l'avenir d'Edouard Philippe. Moi, ça fait 42 ans maintenant que je me trouve formidable. Et puis, je ne vais pas m'auto-virer.
Alors, tout le monde vous ressort votre extrait de déclaration de décembre, extrait dans lequel vous dites « Si je commence à garder un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos. Ben, » c'est pourtant ce que vous faites, hein, vous êtes en train de céder un petit peu.
Je suis en train de céder.
Ben oui.
Ne m'en parlez pas. Vous savez quoi ? Je me dégoûte. Je m'auto-navre.
Auto-navre ?
Oui, je m'auto-navre. Vous savez, il y en a qui chopent la gastro pendant les fêtes. Monsieur Montanet en parlait. Moi, c'est pire, je crois que j'ai chopé une hollandite. Je renonce, je recule, je transige une larve. Il ne manquerait plus que je grossisse et que je perde mes cheveux.
Alors,
et ça, ce n'est pas mon projet.
Non. Soyez fort, monsieur le président. Allez, on va parler de Carlos Ghosn, qui s'est donc enfui du Japon et qui est désormais au Liban. Il a déclaré « Je n'ai pas fui la justice ». J'ai fui l'injustice. On est en ligne avec lui. Bonjour Carlos Ghosn. Ah, c'est Liban là.
Oui, salam alaikum, Mme Julie. Bonjour les autres. Bonjour à tout votre studio.
Bien la voix. Alors Carlos Ghosn.
Oui, j'aime quand vous mettez une note sur mes voix alors que je suis imitateur professionnel.
Carlos Ghosn, vous vous êtes donc enfui en avion, hein, on a vu ça.
Oui, effectivement, j'aurais pu fuir en Dacia Sandero, vous l'aurez noté, ou en Twingo.
Bien la vanne.
Mais je suis bien placé, Madame Leclerc, pour savoir que les Dacia, les Twingo, c'est de la merde, vu que c'est moi qui les fabrique.
Alors, il paraît que vous étiez caché dans une malle d'instruments de musique. Ça, c'est incroyable.
Voilà, une malle d'instruments de musique, voilà ce à quoi je suis rendu. J'ai dû me déguiser en violoncelle et me cacher dans un étui.
Ben oui.
Mais bon, de toute façon, j'avais tout prévu. J'avais un faux passeport au nom de Guy Joao.
D'accord.
Oui, ça fait le lien. Je vois que vous êtes férus d'actualité. Si on m'avait arrêté, j'aurais dit, ah non, déjà que vous m'avez pris pour Xavier Dupont de Ligonnès, vous n'allez pas en plus me prendre pour Carlos Ghosn.
Bien joué, hein, monsieur Ghosn. En
je
tout
vous
cas,
remercie.
Ça y est, vous êtes au Liban, mais on reste en contact avec vous.
Parfait.
Toujours. Toujours sur cette évasion de Carlos Ghosn au Liban. La vie de Nicolas Sarkozy. Bonjour.
Allez. Franchement, quelle indignité, madame Élise Lucette. Associer mon nom à celui d'un fugitif.
Oh bah, attendez.
Si, qui a fugitivé de sa prison, tout le monde le sait. Mais franchement, mais qu'on arrête de vouloir me salisser en permanence. Je ne connais pas, une fois pour toutes, M. Béliard doit dans les yeux, M. Montanet, M. Cabrol, tiens, vous êtes là, je ne l'ai pas vu.
On voit que lui, arrêtez.
On peut écouter avec ce chapeau conique et sous la table, c'est peut-être pas évident de le voir. Je le répète, je ne connais pas ce monsieur, pas M. Cabrol, M. Ghosn.
Mais attendez, mais c'est votre ami Carlos Ghosn, vous lui avez rendu visite au Japon récemment.
Au Japon. Bon, faut le savoir, il est au Japon ou il est au Liban?
Il était au Japon, là.
Oui, mais soyez précis, parce que Mme Julie, le métier de journaliste, c'est avant tout la précisité. Bon, bref, je ne connais pas de Carlos, donc merci, au revoir, vous êtes gentil avec moi.
Mais voilà. Arrêtez, tout le monde...
m'écouter.
Mais non, tout le monde sait que vous le connaissez, enfin.
Mais je ne connais pas Carlos. Moi, je connais Carlos, je ne connais pas Carlos. Alors, je l'ai... Bon. Écoutez, je l'ai peut-être croisé une fois au mariage de Johnny avec Stéphane Collaro.
Ah, Carlos.
Mais maintenant, je m'en rends. Oui, si, parce que alors, voilà. Parce que maintenant, je me souviens, c'était le gros, c'est ça, oui, c'était le gros qui chantait Papa Youlélé avec des chemises moches. Et j'ai... Elle était dedans. Moi, j'ai connu la régie d'Europe 1, la technique était moins réactive que ça. Mais ils mettent des langues de belle-mère, ils mettent Carlos, alors que c'était
c'est
pas
bien,
prévu.
Hein, ouais. Oh, non, c'est
quelle
formidable réactivité.
Quelle réactivité qu'ils ont maintenant. Vous avez changé les équipes ou quoi?
Non, les mêmes, mais ils sont reposés là.
Ils sont Gurangin ou Red Bull? Oh là là, oui. Ils vont mettre un bruit de chèvre aussi. Parce qu'ils l'ont en stock, vous savez, il y a deux ans, ils avaient un bruit de chèvre. Oui. C'est un chameau, ils avaient des chèvres. Bon, bref.
Alors,
si, parce que je connais ce monsieur Carlos qui chante Papa You, je mérite la prison pour ça, mais quelle indignité. Franchement.
Quoi?
J'ai été bonne. Hein. Entre vous et moi, je dis, je crois qu'en 2020, je suis prêt à retrouver les juges.
Hein. Eh bien, on vous le souhaite alors. Et le bruit de chèvre, ça vient pas apparemment. Hein. Le record de grève à la SNCF est battu. Ça fait 32 jours que le mouvement a démarré.
Ouais, bon, il y a un petit léger retard de la technique sur ce lancement. Je dois le noter, ils étaient en train de farfouiller entre le bruit de chèvre et Erwin Survive. Ils étaient totalement perdus à la technique en ce début d'année. Nous avons troublé. Bon, et bonjour, mes chers gelés. Bonjour à tous les techniciens d'Europe 1, les auditeurs d'Europe 1. Bonne année. Ici Nelson Montfort. Je suis actuellement au dépôt des TER de la gare Saint-Lazare. Ici, évidemment, c'est la fête. On fête ce titre de façon légitime de recordman de France de bordel. On lance actuellement. Ah oui, non, pas sur moi. Pas sur moi, s'il vous plaît. On lance des merguez en l'air. On fait tourner les chasubles CGT comme tel un Patrick Sébastien. Fait tourner les serviettes. Je suis avec un des artisans de cette réforme. Mais s'il vous plaît, monsieur, approchez-vous de mon micro, s'il vous plaît. Merci. Régis, c'est votre prénom. Régis, oui. Régis, un cheminot, allez-y, vous écoute.
Mais on le connaît, Régis, bien sûr, on le connaît.
Oui, Régis, merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous ce titre de recordman de France de bordel. Quel est votre sentiment? Quelle est votre impression?
Oui, bah écoutez, c'est... Arrêtez les copains, là, la musique. Oui, écoutez, l'important, c'est le collectif. Cette victoire, il y a peut-être un plus assez du tout de musique, là, du coup. C'est... Oui, mais l'auditeur sent que c'est pas crédible, une histoire... On dirait... Allez, remets ça, quoi. Aucun sens de la nuance. Donc, cette victoire... Ouais, mais je pomme ma voix du coup. Je peux pas rigoler, imiter, bande de cons. Cette victoire, on est allé la chercher tous ensemble. Forcément, maintenant que je suis sérieux, c'est moins drôle. Puis c'est surtout le travail, l'arrêt de travail de toute une équipe, dont je remercie Bébert, Maurice, Jean-Claude, Roger, qui ont débrayé, putain, j'arrive même plus à lire, avec une régularité de champion. Des champions, les gars. On dirait Cabrol qui fait la météo tellement je me loupe.
Merci, mon cher Aziz, de cette franchise. C'est une nouvelle journée de compétition. Vous affrontez l'équipe du gouvernement à Matignon. Quels sont vos objectifs pour terminer?
Écoutez, moi je crois qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. Nous, on est des compétiteurs, les cheminots. Champion de France de bordel, c'est bien, mais on va pas s'arrêter là. On croit qu'on peut marquer l'histoire du bordel et puis bloquer les trains pendant encore des semaines. Qu'on va en foutre du bordel, on lâche rien, on est les champions. On aurait dû arrêter en paragraphe d'en haut, juste au-dessus. C'était plus drôle puisque la plus personne rigole. On s'en fout. Allez, balance le son, la technique, on est. Bonne année les vedettes.
Sonia Mabrouk et Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, la retraite par capitalisation n'est pas aussi noire que vous la présentez. Il y a quand même, Jean-Luc Mélenchon, 12 millions de Français qui souscrivent des retraites complémentaires par capitalisation, Jean-Luc Mélenchon.
Mabrouk, la capitalisation, c'est un enjeu mortel. Vous, Mabrouk, vous êtes cadre sup, hein, vous gagnez plus que moi. À quoi c'est ça, vous les voyez, les petits gens qui ne peuvent pas souscrire une retraite par capitalisation? Est-ce que vous les voyez, les petits gens qui peuvent pas, qui vous mettent la petite lumière, qui vous mettent le petit chauffage, hein, qui vous apportent le café, la petite mamie qui vous donne l'heure, là, toutes les 10 minutes
hein,
vous la voyez? Et le petit papy qui vous donne la météo et qui se gourre une fois sur deux. C'est important, les petits gens.
C'est bon. Je me suis gouré, oui, mais j'ai dit qu'il y avait pleuvoir, ouais, je me suis gouré, il a fait beau. Ouais. Alors, si on commence à engueuler, même quand je dis qu'il fait beau, qu'est-ce que on vient.
Alors, Jean-Luc Mélenchon, ça fait un plaisir de vous avoir. Il y a longtemps que vous n'êtes pas venu sur Europe 1. Et d'ailleurs, il y a une question d'un jeune stagiaire de 3e, Mathieu Béliard.
Oui, Jean-Luc Mélenchon, je voulais vous poser une question. Vous avez, c'est une question très politique, une question con. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes prêt? Vous aimez nos nouveaux locaux?
Il l'a dit.
Je sais pas, j'ai rien à foutre de tes nouveaux locaux. Moi, je suis un élu locaux. J'ai rien à foutre. Si, ce que je peux dire, c'est que c'est plus grand. Donc, pour payer tout ça, vous devez morfler. Voilà.
Merci. À vous, Julie.
Merci à tous les deux. Allez, tout de suite, Mathieu Béliard, vous restez avec nous, hein, on vous retrouve.
Oui, très beaux échanges en simple mixte, vous l'avez compris, entre Sonia Mabrouk et Jean-Luc Mélenchon. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui propose une aide opérationnelle immédiate à l'Australie pour l'aider à faire face aux incendies qui ravagent, vous le savez, le pays depuis le mois de septembre. S'il est aussi doué pour les aider que pour éteindre la grève qui ravage la France depuis un mois... Les koalas n'ont pas fini d'avoir chaud au derche. Voilà. Non, et puis on en parlait avec Jean-Luc Mélenchon. C'est l'appel au blocage de toutes les raffineries de France. Et oui, si on avait été malin à Noël sous le sapin, on aurait demandé à recevoir un jerrycan d'essence.
Oh oui, quelle bonne idée.
Dans les petits souliers. À vous, Julie.
Merci, Mathieu. Allez, on commence avec cette déclaration de Bruno Le Maire. Le compromis sur les retraites n'a jamais été aussi proche. Bonjour, monsieur Régis.
Oui, bonjour, les vedettes. Bonjour à tout l'ouagon. Non, on n'a jamais été aussi proche d'un compromis, ça c'est sûr. On est quasiment d'accord. D'un côté, t'as le gouvernement qui veut pas lâcher. Et de notre côté, nous, on veut pas lâcher aussi. Vous voyez, on est d'accord. On veut pas lâcher. On est d'accord sur le fait de pas lâcher.
Ouais.
Tu veux lâcher? Moi aussi, je veux pas lâcher. On est d'accord, on lâche pas.
Oui, on a bien compris.
On est
alors.
Bien d'accord, pas lâcher.
C'est bon, monsieur Régis. Cette grève est déjà la plus longue de l'histoire de la SNCF. Elle peut donc encore continuer, selon vous?
Mais bien sûr, c'est quoi, Julie? Je te me permets de t'appeler Julie.
Allez-y,
depuis
mon
le temps
Régis.
Qu'on se croise. C'est quoi faire la grève? C'est pas travailler. Pas travailler. Alors oui, pas travailler, on peut le faire longtemps. On peut encore tenir un mois. Voilà, avoir un an à pas travailler. Idéalement même, pour un cheminot de 35 ans, ce serait tenir la grève encore pendant 20 ans. Ah ouais. Comme ça, à la fin de la grève, il aura 55 ans, il pourra partir en retraite sans avoir jamais travaillé. C'est fort, ça.
C'est fort, oui. Alors, comment vous jugez vos collègues qui souhaitent reprendre le travail? On a vu des vidéos où les grévistes leur mettaient la pression, hein, carrément.
Ben non, ils peuvent reprendre le boulot s'ils veulent. Il y en a qui ont essayé. Bon, ils ont eu des problèmes, mais on leur a dit, c'est vous qui voyez.
Merci, monsieur Laspalès.
Vous en prie.
Régis, monsieur Régis.
Tu peux m'appeler Régis.
Non. Allez, aujourd'hui, le gouvernement rencontre donc les partenaires sociaux à Matignon. Nelson Monfort, vous êtes sur place, je crois. Hein,
oui, écoutez, ma chère Julie, mon cher Mathieu, Mathieu Belliard. Bonjour, là, la Morning Team. Écoutez, oui, je suis à Matignon pour cette rencontre entre le gouvernement et les syndicats. Édouard Philippe rencontre Philippe Martinez dans le cadre du championnat de France d'échecs des négociations. Oui, tout à fait, cela. Ça fait un mois que j'aime bien quand vous étonnez sur une phrase que vous connaissez puisqu'elle est écrite sur votre feuille. C'est formidable, quel jeu d'actrice. Écoutez,
qu'est-ce que vous voulez?
Ça fait un mois que cela dure. Personne, nous l'avons rappelé plus haut, personne ne veut rien lâcher. On va aujourd'hui voir à quelle vitesse les négociations vont capoter. Édouard Philippe, à l'instant, Édouard Philippe s'approche de Philippe Martinez. Attention, je décrase mon clonnet. Top, c'est parti.
Oui,
Bonjour, monsieur Martinez. Donc, que proposez-vous comme compromis?
C'est retirer la réforme.
C'est hors de question.
Top! Oh là 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 là, quel exploit, ma chère Julie! 4 secondes et 22 dixièmes, record! Record battu d'échec de dénégociation! Un échec à 234 km/h, un service de Nadal directement dans le filet! Un mur pris à cette vitesse, on n'avait pas vu ça depuis Ayrton Senna, vraiment! Regardez ces images magnifiques! Les deux athlètes se serrent la main, chacun rentre chez lui! On est reparti, je crois, pour 8 jours de grève et ensuite il y aura un nouvel. Nous l'espérons, un nouvel affrontement, un nouveau rendez-vous. Est-ce que l'on pourra passer sous la barre des 3 secondes? En ce moment, tout paraît possible, à vous Paris.
Merci Nelson. Remarquable commentaire là. Allez, il y a 5 ans, le 7 janvier 2015, avait lieu l'attentat de Charlie Hebdo. Pour en parler, on va recevoir le président de l'époque, François Hollande. Bonjour.
Oui.
Bonjour. Il y a longtemps que vous ne m'avez pas invité.
Mais c'est vrai, on est content.
La star du Jean-Luc Mélenchon. Oui, revenons à la question que vous posiez.
C'était il y a 5 ans.
Oui, il y a 5 ans. 5 ans, j'étais Charlie. J'étais, vous en souvenez certainement, un des premiers à me rendre sur place à côté de l'urgentiste Patrick Relou.
Non, c'est pas, non, s'il vous plaît, Patrick Pelou.
Oui, enfin, on voit que vous n'avez pas passé plus de 2 heures avec lui. Il est gentil, mais il est un peu relou quand même.
Oh non, écoutez, bon, stop. Alors...
Je l'ai pratiqué. Au quotidien, oui, je sais que c'est pas très politiquement correct par les temps qui courent, mais pour fêter cet anniversaire, mais bon. Je l'ai pratiqué.
Non, mais on sent votre attachement. Dites-nous votre attachement.
Je suis en train d'attraper une béliardite. Je vous en prie.
On sent votre attachement à Charlie Hebdo, hein, c'est vrai ça.
Écoutez, on ne doit pas se mentir. Si le journal s'était appelé Charlie Hebdo, ça ne m'aurait certainement pas concerné autant.
Vraiment.
Oh là. Je l'aurais pas lu souvent. Mais là, j'aimais bien Charlie Hebdo. Il se moquait de la classe politique et surtout pas que de moi. C'est vrai que ça faisait des vacances.
Alors, 5 ans après ces attentats, quel bilan on peut tirer? Selon vous,
bilan, des gens déjà rendre hommage.
Oui, rendre hommage à Cabu, à Volinsky, à Tignous.
Ah non, au frère Kouachi.
Hein?
Mine de rien, depuis l'attentat, plus une vanne sur Mahomet. Je crois qu'ils ont prouvé que la violence physique, voire le meurtre, est une bonne façon de faire passer ses idées. Moi-même. Si j'avais exécuté le premier... Moi-même, à titre personnel, si j'avais m'étais inspiré, si j'avais exécuté le premier gars qui avait fait une vanne sur moi en tant que président, il n'y en aurait peut-être pas eu d'autres. Hein. Je précise pour vos auditeurs qui peuvent ne pas faire la différence, mais pourtant c'est du CS++++.
Oui.
C'est, je préfère, avant d'avoir une fatwa au cul, c'est une vanne Charlie, bien sûr, que je viens de faire.
C'est une vanne Charlie, bien sûr, oui, c'est bien de ne pas oublier, en tout cas. La situation...
J'aime votre ton sérieux.
On va enchaîner avec l'Australie, c'est pour ça la situation est catastrophique là-bas, à tel point que le tournoi de Melbourne risque d'être reporté ou annulé même. C'est la demande du numéro 2 mondial, Novak Djokovic. Nelson Monfort, vous êtes déjà en Australie, mais comment c'est possible? Non mais attends, on vous a entendu à Matignon. Oh,
écoutez, je vais faire une confidence, ma chère Julie, je n'étais pas vraiment à Matignon.
Ah,
oh, qu'elle est naïve, quelle truffe. Elle y croit encore après toutes ces années que je suis en duplex. Elle est mignonne. Bref, je suis actuellement, donc on va y croire, je suis actuellement à Melbourne, comme vous le disiez. C'est une formidable nouvelle pour le tennis français. C'est la possible annulation du tournoi de Melbourne pour la première fois en 2020. Mon fils donc ne va pas se prendre une branlée au premier tour. Son gars ne va pas se blesser à l'entraînement en sortant la raquette de son étui. Et Gasquet ne va pas se faire une installation au bout de 40 secondes sur le central. Donc je le dis, tout de go, vive les incendies, vive les annulations et vive le tennis français.
Oh là 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 là. Bon, écoutez, je crois que Lionel Chamoulot est à vos côtés, Nelson. C'est à lui qu'on va parler.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bonjour les amis, bonjour, bonjour Julie, bonjour Mathieu, bonjour à Jean-Pierre Montanet, bonjour Fanny Agostini qui est sur place dans sa jolie ferme que j'aimerais bien visiter. Bonjour à Laurent, bonjour à tous les amis. Alors, on découvre à l'antenne, vous le voyez, les très belles images de Pat Godard qui nous montre à l'heure actuelle, vous le voyez, je crois que c'est un...
Quoi ?
Un eucalyptus. Un eucalyptus qui brûle, à moins que ce soit un nombrophile de Tasmanie, c'est possible aussi. Je pense qu'à l'odeur, ce...
Oh non.
Je dirais plus un eucalyptus.
Bon.
Alors que le feu se rapproche tout doucement du central, les jeunes ramasseurs de balles ont le feu au short.
Il faut les évacuer alors, non, attendez, Lionel. On revient à Nelson, un dernier mot. On a une pensée pour toutes les victimes en Australie et puis aussi pour la faune australienne. C'est une vraie catastrophe.
Ma chère Julie, la faune australienne, c'est vrai, cela dit, il n'y a pas que les incendies qui tuent des koalas et des kangourous. Tsonga a tué l'année dernière 7 koalas et 11 kangourous juste avec des services ratés.
Bienvenue à nos auditeurs qui nous rejoignent peut-être à l'instant sur Europe 1 ou qui sont avec nous déjà depuis 6h du matin. L'info du jour, chers auditeurs, c'est le mot amphigourique. Amphigourique, Brice Hortefeux nous a donc tous rappelé qu'on était des cons en utilisant le mot amphigourique. Ça vient donc de l'amphi qui veut dire amphi et gourique du verbe se gourer. Amphigourique, confus, compliqué. Dis donc, d'ailleurs, l'ami Laurent Cabrol, je trouve votre météo un peu amphigourique en ce moment.
J'arrive pas à mettre un mot sur mes météos, ça y est, je l'ai. Je m'excuse auprès de vous, je me suis un peu amphigouré sur le début de semaine, hein, en vous disant qu'il allait pleuvoir et en fait, il fait beau.
Merci Laurent pour cette franchise qui est habituelle chez vous. Merci. L'info pas amphigourique du jour, du coup, c'est Donald Trump. Donald Trump au cœur des tensions avec l'Iran. Et puis la mort du coiffeur des stars, Jacques Desange. Vous l'avez compris, entre Donald Trump et Jacques Desange en ce début 2020, les tensions durent pour tous les cheveux. Tous les cheveux du monde entier. On a un pensée pour tous les cheveux du monde entier. Donald Trump soutenu, rappelons-le, par Emmanuel Macron. Alors je préviens les Iraniens. Faites attention, les Iraniens. S'il est vénère, Macron est capable de tout. Il peut aller jusqu'à envahir l'Iran et changer votre régime de traite, les chers Iraniens. C'est un ouf, le gars. Et puis, scoop. Plus de 1400 voitures, nous l'avons révélé sur Europe 1, ont été brûlées le soir du Nouvel An. Des chiffres d'habitude jamais dévoilés pour ne pas encourager, bien sûr, l'escalade. Mm-hmm. On en parlait avec Brice Hortefeux. C'est donc logiquement qu'Europe 1 les diffuse. Voilà, allez, à vous Julie.
Il n'y a pas de raison. Hein. Allez, nous en parlions ce matin. Donald Trump continue ses provocations envers l'Iran. Bonjour Danny Cohn-Bendit.
Oui, bonjour Thomas.
C'est génial.
Quoi ?
Génial,
quoi ?
Les États-Unis. Ah, dès alors... qu'un président est dans la merde, excuse-moi d'être trivial, avant une élection, il a le droit de tirer une carte chance. Bon, là-bas, ça s'appelle pas carte chance, ça s'appelle guerre en Irak. Voilà. Mais c'est la même chose. Hein. Et même quand ils sont en Irak, ben, ils bombardent quand même l'Irak. Mais là, c'est les Iraniens qui vont prendre dans la gueule.
Ouais, alors, on dit que Donald Trump a besoin d'une guerre pour se poser en président avant l'élection de novembre.
Mais ouais, mais ça va marcher. Ça marche à tous les coups. C'est là qu'on voit qu'on est nul en France. Macron, il n'a pas encore trouvé son endroit qui pourrait bombarder avant 2022.
Mais ça pourrait être où, cet endroit ?
Bon ben, ça pourrait être où, nous ? L'armée française n'est pas, tu vois, on n'est pas les États-Unis, donc faut s'attaquer à un truc pas trop gros, tu vois. Faudrait, je sais pas, moi, bombarder l'Andorre ou Liechtenstein, le Luxembourg. Non, sinon, plus gros, ils vont nous battre.
Bon, bah merci, Danny.
Bah de rien, Thomas.
Allez, il est un des grands sages de la politique, proche d'Édouard Philippe. Son regard compte, c'est Alain Juppé. Bonjour, monsieur.
Oui, écoutez, ravi, toujours disponible, je suis un peu votre... Vous l'avez dit, votre consultant en bordel, votre historien en souk, votre expert en blocage.
Alors, est-ce qu'Edouard Philippe peut se mettre d'accord avec Philippe Martinez, selon vous ?
Écoutez, vous savez, je vais vous narrer une anecdote. Je vais vous dévoiler un petit peu des choses privées.
Allez-y, là.
J'ai un arrière-petit-fils qui a 2 ans. Et à 2 ans, l'enfant découvre, pour s'affirmer en clair, pour faire chier ses parents, il découvre la période du non. Il dit non à tout.
Ouais.
Bien, Philippe Martinez, à 58 ans, n'est toujours pas sorti de cette période du non. Donc je dirais à Edouard, c'est mort, tu vas en chier encore pendant quelques belles semaines.
Ah, quel beau conseil. Allez, merci Alain Juppé. Ben justement, tiens, il nous rejoint, Edouard Philippe. Il a donc une nouvelle fois reçu les syndicats, mais sans que rien de concret n'en sorte. Monsieur le Premier ministre, bonjour.
Alors, bonjour. Le clair, même Roche.
Pompine Roche. Prénom un peu en figurique. Alors, déjà c'est faux. Il n'est pas rien sorti de concret de cette réunion, puisqu'on s'est dit qu'on se revoyait vendredi, et vous l'aurez noté. Ça, c'est déjà, oui, vous riez, monsieur Béliard, puisque, voilà. Mais c'est une avancée. On est d'accord sur la date de vendredi. Ça, c'est du concret. Parce que la CFDT disait jeudi. Il faut savoir que FO disait jamais. Moi, je proposais lundi. Oui, et bon, nous sommes d'accord sur vendredi.
Oui, mais vous avez parlé de quoi, sinon, alors?
Ben de rien. Ah bah, enfin, de rien. De ça. On a passé deux heures à se mettre d'accord sur la date du vendredi, du prochain rendez-vous.
Ah bah, donc. Pardon d'aborder ce sujet. Mais à chaque fois que vous faites une sortie publique, l'état de votre barbe empire.
Alors, écoutez, je ne sais pas si ça intéresse. Non, je ne sais pas. Non, écoutez, je vous ai déjà parlé des problèmes de cheveux en début d'émission. Non, je ne sais pas si ça intéresse nos concitoyens. Écoutez, on va être transparent, parce que moi, j'aime bien la transparence.
Dites-nous.
Écoutez, j'ai deux problèmes. C'est le trou de la sécu et le trou de ma barbe. Alors, je rassure les Français, je n'ai pas la gale ou la lèpre comme certains dans ce studio. Mais c'est juste que je ne viserai pas. Non. C'est juste que je somatise. Plus je stresse, et plus j'ai des trous. Et plus j'ai des trous, plus je stresse.
Ah bah dis-donc.
Hein, c'est comme vous connaissez le gruyère. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Et plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Ça, c'est un vrai problème qu'il faudrait poser à Milani. Mais bon, bref. Donc, dans 6 mois, je ressemblerai à un dalmatien. C'est terrible. Je vais être en plus, il est possible que je sois au chômage. Donc, on appellera le sans rien dalmatien.
Oh, magnifique.
Oui, c'est pas terrible. J'aurais pu aller faire une couleur chez Jacques Desange, mais il vient de mourir.
Ah oui, ça tombe mal. Ouais.
Vous savez, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Ça, vous voyez, là, je restresse. Et vous voyez, j'ai pas un trou en plus là qui est en train
de se... Non, là, ça a l'air d'aller.
Si, j'ai un trou en plus.
Je veux dire,
j'ai un trou en plus.
Vous avez pas remarqué la barbe d'Edouard Philippe ?
Là, je ne vois que ça. Et essayez de résoudre ce problème.
Il va falloir faire quelque chose, monsieur le Premier ministre.
Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, mais plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Ça, c'est le.
Non, mais c'est. Il y a des cheveux blancs, mais il y a un trou quand même. Allez, on enchaîne. Le débat sur la réforme des retraites se déplace sur la pénibilité, une question sur laquelle le gouvernement met en avant Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Bonjour Muriel Pénicaud.
Oui, bonjour madame Julie, bonjour à toute la rédaction du studio avec tout le monde. La pénibilité. La pénibilité, c'est vrai, il y a des gens qui... Des métiers qui sont pénibles. Par exemple, si vous prenez un pompier,
d'accord.
Un pompier, c'est pas ça.
Ok, d'accord.
On prend un pompier. Les pompiers, ça a l'air d'être brut, net, 1280 euros net.
Oui.
Ou un policier, pareil. Donc la pénibilité, ça consiste à dire que le pompier va gagner plus que le policier ou un militaire, parce que ça consiste à dire qu'au moment où le pompier partira à la retraite, et il sera retraité. Parce qu'il ne travaillera plus, parce que son travail est pénible.
Bon, ben, j'ai rien compris. Alors, un pompier qui part à la retraite, ce sera un retraité.
C'est parce que c'était un mauvais exemple. Mais prenons un pompier. Ou une pompière, parce que la pénibilité, ça marche aussi avec les femmes. Parce que les femmes aussi peuvent être pénibles. C'est pas parce qu'il y a des femmes pénibles. Oh, c'est parce qu'il y a des femmes qui sont pénibles. Un pompier, c'est pas le même métier qu'un cheminot. Alors le cheminot, sa pénibilité, lui, elle est moins pénible que la pénibilité d'un policier.
Eh ben, j'ai rien compris. C'est en figurique, hein. C'est là qu'on le place ou pas, hein. Allez, on va vous laisser bosser votre dossier, madame Pénicaud. Merci beaucoup. Non, on vous laisse.
Oui, prenons pour l'Australie, prenons un pompier.
Non, laissez tomber.
Un pompier avec un tuyau. Un tuyau, une lance et une grande échelle, le pompier.
Oui, non, mais laissez tomber l'Australie.
C'est difficile de dérouler le tuyau quand on est...
On va parler de l'Open d'Australie, justement, parce que malgré les incendies, les organisateurs jugent peu probable un report de l'Open. Hein. On va retrouver sur place Lionel Chamoulot. Est-ce que vous nous entendez, Lionel?
Oui. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous vos amis dans le studio. Bien écoutez, ici en Australie, enfin ce qu'il reste de l'Australie, les préparatifs du tournoi continuent. Alors ici on va pas jouer sur la terre battue, on va jouer sur terre brûlée. Terre brûlée, au vent des landes de pierre.
Mais non, mais enfin.
Au fond Les lacs, pardon. Oui, non, ça m'a mis les, pardon, les lacs du Connemara, de l'ami Michel Sardou qui est dans les tribunes, dans la tête.
Bon, mais Lionel, c'est pas dangereux pour la santé des joueurs, ça?
Oula, une image de maintenir le tournoi. Insolite, hein, c'est là que nous montre Fred Godard. Une image insolite, un kangourou en feu.
Oula.
Qui fait des bons.
Ben, oui.
Une image qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir tous les jours, tant mieux. Alors qu'on aperçoit dans les tribunes le Premier ministre australien qui vient vérifier que le tournoi se prépare correctement au lieu de lutter contre les incendies.
Ah, tiens, c'est vrai, il est très critiqué le Premier ministre hein, là-bas. Notamment parce que malgré les incendies, il continue à nier le réchauffement climatique. Il continue à soutenir les exportations de charbon aussi.
Oui, en même temps, du charbon, ici, il y a...
Quoi ?
Il n'y a que ça, avec tout ce qui a cramé. Il peut en vendre pour 2000 ans, je pense, du charbon. Alors qu'on aperçoit à l'instant du feu sur le central. Un bel incendie, ma foi, les flammes se rapprochent de la caméra de Fred Godard, dont c'est inédit, c'est assez drôlatique, dont les cheveux de Fred Godard prennent feu. Fred, à l'instant, court... partout en... Le courant hurlant, peut-être entendez-vous. L'image sympathique cadrée par les caméramans de Fred Godard. L'image qui fera la joie des bêtisiers de Noël prochain, je pense.
Mais c'est horrible.
Alors que la cabine de presse vient de s'effondrer à cause des flammes. Peut-être est-il opportun de reporter le tournoi. En tout cas, il fait très chaud ici. Je ne cache pas qu'il fait très chaud. Je vais peut-être moi-même paraître puisque mon pantalon est en train de prendre feu.
Oh non, faites quelque chose là, allez.
Ça brûle, ça pique.
Figurez-vous qu'ils sont encore dans le studio.
Martinez, je ne sais pas si cela va se sentir lors de cette interview, mais je ne peux pas vous encadrer.
Oui, mais rassurez-vous, c'est réciproque, Mme Mabrouk.
Alors, tout d'abord, Carlos Ghosn, vous êtes-il convaincu, vous qui avez travaillé chez Renault et Philippe Martinez?
Ah ben, j'y travaille encore, hein, je vous signale, j'y travaille encore. J'ai 37 ans, c'est 37 ans que je suis chez Renault, j'ai mes 37 heures nuitées de grève. Oui, Mme Mabrouk, parce que c'est le minimum pour pouvoir faire grève, faut avoir un boulot, voilà. Et monsieur Carl Ghosn, en parlant de travail, a supprimé plus de 100 000 emplois dans le monde. Alors je vous le dis, il m'a pas convaincu, hein. Il a redressé peut-être le groupe, mais en rachetant d'autres groupes, hein, en n'améliorant pas les conditions de travail.
Oui, en fait, vous êtes contre tout, Philippe Martinez. J'entends beaucoup.
Non, je suis pas contre tout, c'est une façon caricaturale de me positionner. Non, je suis juste contre.
Voilà. Écoutez, il y a beaucoup de non, 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 non. En tout cas, merci d'avoir dit oui à cette interview.
Ouais, c'est ça, c'est une façon de me couper la chic parce que vous avez d'autres sujets à balancer, c'est ça, un sujet sur le caviar, hein, hein. Ouais, ouais, vous êtes démasqué en rampant. Les auditeurs jugeront, Mme Mabrouk. Un jour, les auditeurs jugeront.
À vous, Julie.
Merci à tous les deux. Et tout de suite, le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Béliard. On ne vous oublie pas.
Oui, bonjour Julie. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur Europe 1. L'actualité, c'est bien sûr les punaises de lit. Nous en avons parlé avec Fanny Agostini. Je pensais qu'elle allait nous sortir du lierre pour chasser les punaises de lit. Non, c'est grâce aux chiens qu'on chasse les punaises de lit. Du coup, après, vous avez des puces, mais vous n'avez plus de punaises. Alors, bienvenue sur Europe 1. Oui, une radio pragmatique, pragmatique. L'actualité, c'est bien sûr le prince. Tiens, donne-moi un gâteau. Ouais, le prince Harry et Meghan Merkel.
Elle vient d'arriver au cerveau, pardon.
Quoi, l'histoire du gâteau?
Mais excusez-moi, je suis auditeur, mais.
Ah, le prince! Oh là là, ça y est, je l'ai aussi. Oh,
excusez-moi,
là,
mais
magnifique.
Le matin, je fais la radio et je pense qu'à bouffer. Alors, le prince Harry et Meghan Merkel. Meghan Merkel qui décide de prendre leur distance avec la famille royale d'Angleterre et de s'installer aux États-Unis. Décidément, le Brexit, ça ne rigole pas.
Oh non, 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 non,
oh,
non,
Stéphane, oh non. Bonjour,
oh,
alors.
Oui,
Oh, bonjour, non, c'est pas un bonjour, non, ma chère Julie. Oui, si, bonne année tout de même. Oh non, non, Harry qui quitte la famille royale. Sonia Mabrouk l'a dit, c'est le Mexique. Mexique. Le Mexique, oui. Arrête, Sonia, tu m'excites.
Oui, tout ça, c'est
non, tout ça, oui, tout ça, c'était plus facile que le prince. Non, tout ça, c'est à cause de Meghan. C'est elle qui veut partir. Décidément, entre Carlos Ghosn qui quitte le Japon et la Meghan qui quitte l'Angleterre, ça délocalise chez Renault.
Ah, la Meghan.
Meghan, Renault, Renault, Meghan.
Oh là, Renault, là, là, Meghan, là, là, aussi,
on
allez,
arrive à faire des liens entre l'actu, c'est fou.
Merci et bravo, Stéphane Bernard.
Oui, là,
hier, Carlos Ghosn.
Il a moins capté la Meghan que le prince, hein, notre Mathieu national.
Cécile. Hier, Carlos Ghosn donnait une conférence de presse très attendue. BFM TV a diffusé cette conférence en intégralité avec de nombreux experts en plateau. On les a trouvés un petit peu complaisants avec le fugitif Carlos Ghosn. On va voir l'ambiance de la matinale de Christophe Delevingne.
Bonjour, bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France. Nous allons bien sûr revenir sur la très belle prestation, il faut le dire, de Carlos Ghosn. Hier, Carlos Ghosn, ce grand patron français, immense patron français, créateur d'emplois, accusé très injustement par le Japon d'avoir détourné de l'argent. On va en parler tout de suite dans notre édition, après notre jingle affaire judiciaire qui fait peur. Voilà, tout en sobriété sur ce sujet, nous sommes en ligne avec Patrick Sauss. Ce Patrick Sauss est son binôme à la caméra, Michel Béarnaise. Alors,
vous
Patrick,
l'avez, Mathieu Sauss Béarnaise.
Oui, ça, Mathieu,
bon,
là, forcément, c'est de la bouffe. Alors, Patrick, vous avez assisté au concert de. Pardon, à la conférence de Carlos Ghosn hier. Racontez-nous.
Oui, Christophe, effectivement, j'ai eu la chance donc ici d'assister à cette prestation hors du commun, disons-le. Ouais. Carlos Ghosn a été excellent. Il a été pugnace, il a répondu, vous l'avez entendu, en français, en anglais, en arabe. J'en ai parlé à son avocat, à son meilleur ami, à sa femme, également à son chien. Et tout le monde est unanime, tout le monde l'a trouvé formidable.
Oui, tout à fait. Nous avons vu d'ailleurs sur les images de BFM le chien. De M. Ghosn remuer la queue. On a compris qu'il était apparemment joyeux.
Oui, bon.
Patrick, on imagine que du côté du Japon, on est moins enthousiaste.
Écoutez, effectivement, je suis à côté d'un officiel du ministère de la Justice japonais, Monsieur Takichi Pikachu. Alors, Monsieur Pikachu, Carlos Ghosn a été, nous le disions à l'instant, éblouissant. Il a bien répondu au système juridique de votre dictature. Pensez-vous qu'il vous pardonnera? Pensez-vous qu'il pourra passer outre? Quelles excuses aimeriez-vous lui formuler?
Ben écoutez, je crois que dans le dossier...
Priorité au direct, désolé Monsieur Pikachu, on vient de recevoir, et c'est une exclusivité, BFM Télé, des images très poignantes, des images de Carlos Ghosn qui se promène sur une plage du Liban, apparemment soulagé et libre en tout cas. On peut... Regardez sur ces images, on peut admirer les gouttes d'eau de mer qui perlent sur son torse musclé. C'est, ma foi, beau, un patron libre, un patron tout court. À vous, Paris.
Merci, Christophe Delay. Allez, on en vient à l'actualité en France. Le gouvernement a accueilli favorablement l'idée de la CFDT d'une conférence de financement. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Oui, le gouvernement est favorable à cette idée d'une conférence de financement. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que c'est qu'une conférence de financement? En fait, c'est une série de débats avec les partenaires sociaux pour savoir comment on finance les retraites. Et sur ces débats, il n'y a pas de débat. Il y aura, je vous le dis, tant que je suis en place, des débats.
Bonne idée, a même l'air de vous enthousiasmer, monsieur le maire.
Mais oui, les syndicats, c'est fou, nous ont proposé de faire un truc de ouf pour le financement des retraites. Ils nous ont proposé qu'on en discute avec eux. Discuter avec les syndicats. Vous vous rendez compte, mais c'est un truc de gueudin. Personne n'y avait pensé chez nous avant.
Attendez, au gouvernement, personne n'avait pensé à inclure les syndicats dans la conception même de la réforme.
Bah écoutez, on est macroniste, réfléchissez deux minutes. Depuis quand on écoute les gens? Quelles idées sont connues? Écoutez les gens, ces trois mots. Oh, 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 elle est marrante celle-ci. C'est bon de rire.
Oh bah oui. Merci monsieur le maire. Allez, direction Lyon maintenant, où la campagne des municipales bat son plein. Le candidat écologiste Bruno Bernard est crédité de 25% des voix. Il talonne Gérard Collomb, qui fait 27%. Bonjour Gérard Collomb. Alors du coup, vous avez adopté un ton un peu plus écolo hein, ces derniers jours.
Oui, bonjour madame Julie, monsieur Bayard. Bonjour à tous les jeunes qui nous écoutent sur votre radio de vieux. Écoutez, oui, l'écologie, c'est une priorité. J'en parlais d'ailleurs avec ma femme jeune. Nous lavons notre linge avec du lierre. Nous chassons les punaises de lit avec notre chien qui vit au chenil. Vous savez, moi, j'en ai beaucoup parlé à ma femme qui est jeune oui. comme moi. Et elle et moi, nous avons peur. Nous avons peur pour notre avenir sur cette planète. Alors, je suis, par la force des choses, devenu écolo.
Ah.
Flower power.
Flower power,
ouais. Oui, je me suis d'ailleurs, vous l'avez tout de suite remarqué, Madame Omblin Roche, je me suis laissé pousser de façon un petit peu faux-folle les cheveux.
Oh bah, ça se voit pas tellement, je trouve, hein.
Oh, ne soyez pas désobligeants. Si, regardez, regardez.
Quoi ?
Elle l'a remarqué, Madame Roche, oui, tout de suite. Regardez, il m'en reste un.
Oula.
Là, ici, là, un peu au-dessus de mon oreille droite.
Ah oui, on le voit. Là.
Celui-là, c'est mon préféré. Je le laisse pousser.
Oui, bon, allez.
C'est mon côté hippie. La régie, maintenant que vous êtes réactif depuis le 1er janvier, est-ce que je peux avoir une ambiance de jeune hippie? Ah, c'est pas mal.
C'est... Ah oui, Ravi Shankar, c'est bien. Ouais, ouais.
Toujours dans l'esprit écolo, est-ce que je peux avoir un bruit de chèvre? Quand on est écolo, on élève les chèvres. Ouais.
De chèvre.
Non, une chèvre, voyez. Voyez, j'ai demandé une chèvre, ils m'ont envoyé une vache. Voyez, les jeunes sont plus du tout connectés à la nature. Ils font n'importe quoi. Bon, sinon, mettez-moi un canard, à la limite.
Ah non, alors...
oui. Oui, je pense qu'il va falloir qu'il fasse un stage chez Fanny Agostini.
Ah oui, à urgence, oui, là. Alors, vous avez déclaré, nous entrons dans une nouvelle ère. La conscience écologique est de plus en plus forte. Il faut entendre la crainte des jeunes, M. Collomb.
Oui, les jeunes font confiance à l'un des leurs en matière écologique.
Bah, pour autant, une de vos promesses, c'est de construire une autoroute urbaine appelée l'anneau des sciences. Et vous dites que c'est une mesure écologique, car cette autoroute permettra, je cite, de relier les grands parcs de l'agglomération.
Tout à fait, une autoroute écologique, parce qu'elle permettra d'aller au parc plus facilement. Et en plus, nous allons la peindre, je vous donne cette exclusivité sur Rapin, nous allons la peindre en vert.
Oh, quelle bonne idée.
Et chez d'autres projets, un aéroport écologique avec des avions en bambou. Des hélicoptères en tofu qui relieront des villes qui ont des espaces verts. Vous savez, l'environnement, c'est important. Ceux qui disent que je ne suis pas écolo essayent de faire de moi un bouc émissaire. Et je...
Un bouc, oh.
Oui, bien joué, la régie.
Ils sont réactifs.
C'est, oui, oui. C'est le Larzac chez vous. Hein, je sens d'ailleurs qu'ils vont voter pour moi.
Ah, bah écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Merci, monsieur Collomb. En Australie, la situation est toujours aussi alarmante. 500 000 d'animaux sont morts suite aux incendies.
C'était ah, Julie, quelle tragédie.
Ah bah oui.
Ces pauvres animaux.
Bonjour Jean Lassalle. Bah oui, c'est dramatique. Hein. On a vu des images épouvantables. Hein.
Oui, je suis en deuil. C'est épouvantable. 500 000 et quasiment 100 millions d'animaux partis en fumée.
Oui.
Bon, de temps en temps, je ne dis pas. Ça m'est arrivé de faire un méchoui avec des ragondins égarés.
Oh là là, quel horreur.
Si, c'est très goûtu.
Oh non.
C'est très goûtu. Avec un peu de caviar qui a un goût de boue, c'est parfait. Et le foie de raton laveur au feu de bois avec des pommes dauphines, c'est très fin.
Il ne faut pas le cuire, il faut le manger cru.
Oui, tout à fait. Oui, comme les princes. Mais 500 millions d'animaux tués.
Ouais, ouais.
500 millions! C'est beaucoup trop.
Ah bah oui, ça oui.
Donc ayons une pensée pour
pour Skippy le kangourou, pour Dingo le dingo, pour Bébert le dromadaire.
Oui, oui, on a vu ça. Le gouvernement australien va engager des snipers pour abattre 10 000 dromadaires sauvages. Ouais. Avec les incendies, ils s'approchent beaucoup trop des villes, car ils veulent trouver de l'eau.
Oui, c'est honteux. C'est honteux. Comme s'il n'y avait pas assez d'animaux morts comme cela, les Australiens sont des chameaux de faire ça. Je l'annonce. J'accorde dans mon département l'asile politique à tous les dromadaires australiens qui le souhaitent.
Oh là.
Bon, je sais que ma femme ne va pas être contente. Déjà que j'héberge des koalas dans mon lit, des kangourous et des punaises de lit dans ma cuisine et des migales dans mon nez.
Ah non, arrêtez. Oh non. Ah,
je dois vous dire que les migales dans le nez, ça chatouille un peu.
Oh non.
Mais vous savez, les migales aussi ont droit d'être protégées. Oui, et au moins dans mon nez, le taux d'humidité est respecté. Il est parfait. Là.
Et puis il y a d'autres initiatives. Hein. Cette américaine, par exemple. Oh non, arrêtez. Oh, les migales qui sortent et tout. Oh là là. Cette américaine, par exemple, elle s'appelle Kelly Ward. Elle a décidé de lever des fonds pour l'Australie. Alors, à chaque personne qui envoie 10 dollars à une association, elle promet une photo d'elle toute nue. Et elle a déjà levé 700 000 dollars.
Toute nue ? Non.
Kelly, toute nue, elle, ouais.
Eh bien, écoutez, je la prends, mais c'est une très bonne idée. 700 000 dollars, dites-vous. Ouais. Écoutez, je prends l'engagement, j'ai déjà su faire une grève de la faim. Je me lance moi aussi.
Oh, vous êtes
moi
sûr
aussi. Oh là. Allez, 3, 4. Amis de la nature. Oups là, j'ai fait tomber mon béret, pardon. Oh, j'ai taché ma chemise en suçant un esquimau. Il va falloir que je l'enlève pour voir le résultat. Envoyer 10 euros à l'Australie. Oh là là, comme je suis serré dans mon pantalon, je vais retirer un bouton. Non, ne ricanez pas, Mme Julie Ombeline. C'est grave la situation en Australie. Il faut ce qu'il faut.
L'actualité sur Europe 1, autant vous le dire, c'est aussi cette nouvelle chronique. Nouvelle chronique juste avant notre revue de presse. Notre nouvelle chronique du docteur et croque-mort Laurent Alexandre, qui vient nous parler des catastrophes naturelles. Laurent ?
Oui, effectivement. En 1931, il y avait 4 millions de morts. Aujourd'hui, nous n'en comptons que plus que 10 000. Quelle joie !
Merci Laurent Alexandre. Bienvenue sur Europe 1, la joie, l'actualité et le bonheur sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est la justice libanaise qui interdit à Carlos Ghosn de... Merci, il est en train de prendre les mesures de chacun, Laurent Alexandre. Merci. La justice libanaise qui interdit donc à Carlos Ghosn de quitter le territoire. C'est une sanction dure, la sanction se précise, on apprend que la justice libanaise interdit également à Carlos Ghosn d'aller au Japon. Voilà une dépêche qui vient de tomber encore à l'instant. La justice libanaise oblige, tenez-vous bien, Carlos Ghosn à manger des langoustes et du caviar au moins une fois par semaine avec un ministre. Et la justice libanaise vient également d'obliger Carlos Ghosn à aller à la plage avec deux mannequins ukrainiennes. Décidément, elle est très investie, la justice libanaise, une justice très dure. À vous, Julie.
Merci, Mathieu. Pendant les grèves, les Parisiens ont beaucoup utilisé le vélo. Et conséquence étonnante, l'électorat de droite pense qu'Anne Hidalgo a fait du bon travail avec ses pistes cyclables. Bonjour, Anne Hidalgo.
Oui, bonjour, Madame Leclerc. Bonjour aux pompes funèbres, Monsieur Alexandre. Et bonjour aux Parisiens. Et aux Parisiennes. Mm-hmm. Oui, la droite, vous l'avez dit, c'est un constat pour lequel je me réjouis, aime mon travail. Vous voyez qu'il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et Dieu sait qu'à mes yeux, les gens de droite sont très, 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 très imbéciles.
Oui, bon, ça va aller. Et finalement, il suffit que les gens de droite se mettent au vélo dans Paris pour qu'ils comprennent que c'est pas si mal que ça.
Hein? Voilà. Écoutez, si seulement les gens de droite étaient jeunes, ils pourraient aussi se mettre à la trottinette et se rendre compte que c'est encore mieux que le vélo, je vous le dis, gens de droite. Mais bon, malheureusement, le dernier jeune de droite, c'est Monsieur Darmanin. Et en plus, il a un chauffeur.
Ah bah oui, ça marche pas. Alors. En tout cas, ces grèves des transports auront eu un effet bénéfique, selon vous, hein ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas... J'ai du mal sur les faits. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faudrait qu'il y ait une grève des cliniques privées. Je le crois, pour qu'ils comprennent, les gens de droite, à quoi sert l'hôpital public.
Ah,
ou qu'il y ait... par exemple, une grève des restaurants et des supermarchés Fauchon pour qu'ils comprennent à quoi servent les restos du cœur.
Oui, on a compris.
Vous voyez que c'est bien, les gens de droite, vous progressez. Hein, lentement, pas à pas,
mais vous progressez.
Merci Anne Hidalgo. Vous pouvez vous déboucher le nez là.
J'en prie.
Il est en première ligne, il est au cœur de l'actualité, c'est notre Premier ministre, Édouard Philippe. Bonjour. Oui. Alors aujourd'hui, 37e jour de grève, vous recevez les syndicats.
Ouais. Bonjour Madame Juliette. Judith, excusez-moi. Oui. Je suis au bord du burn-out. Je suis épuisé. Bonjour Monsieur Benoît. Monsieur Laurent Casserolle. Oui. Madame Omblin Moche. Roche. Bien sûr. Votre croque-mort, Monsieur Alexandre. Monsieur Philippe Vandal.
Vandal.
Virginie. Pain. Plus. Excusez-moi, je suis crevé. J'ai ma barbe qui blanchit à vue d'œil. Je me soigne. J'ai pris deux gélules ce matin de Barbucolor Max 500.
Barbucolor.
Plus donc aujourd'hui, il y a grève, vous le savez, plus réunion avec les syndicats. Samedi, j'enchaîne. Réunion. Oui. Dimanche, réunion. Lundi, réunion.
Oh là là.
Mardi, on enchaîne grève, réunion, blocage. Après, on change. Mercredi, j'ai blocage, grève, réunion. Grève, blocage, blocage, réunion, réunion, grève. Pour mercredi, j'ai envie de citer David Iboune. Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi tout ça n'irait pas.
Bon, alors, on vous entend positiver, on vous a entendu positiver, notamment sur les propositions de Laurent Berger, que vous voyez aujourd'hui en réunion, hein, Laurent Berger.
Oui, c'est super ce qu'a dit Laurent Berger, les syndicats sont formidables, ça fait 2 ans qu'on discute, mais tout va se débloquer aujourd'hui, j'en suis sûr, au cours de cette 773e réunion.
Vous y croyez, vous ?
Pas du tout.
Oh bon, vous avez dit du bien de la solution de malus temporaire, en tout cas.
Alors ça, malus temporaire, il y a une solution formidable qui est proposée, c'est donc celle du malus temporaire. Avec abattement trimestriel pour compenser la décote séquentielle à taux plein, qui présente un énorme avantage.
Lequel ?
Mais c'est que comme on n'y comprend plus rien, ça, si ça se trouve, avec les syndicats, on est peut-être d'accord, peut-être sur ce point.
Il faut peut-être voir ça alors. Merci Monsieur le Premier ministre. Parfait. Et bon courage. Hein. Carlos Ghosn a donc donné sa version des faits lors d'une conférence de presse devant des journalistes du monde entier. On l'accueille tout de suite. Bonjour Carlos Ghosn.
Oui, bonjour Madame Julet. Bonjour à tous. En quelle langue voulez-vous me poser vos questions? En français, en arabe, en anglais, je peux tout faire. Si jamais Monsieur Montfort à la retraite à Roland-Garros, je peux le remplacer. J'ai 18 langues à mon accent.
Alors, Monsieur Ghosn, vous criez à l'injustice qui sévit au Japon, mais comment vous expliquez cette injustice d'ailleurs?
Écoutez, les Japonais m'ont confondu avec quelqu'un d'autre. Vous savez que pour eux, nous les Occidentaux, on se ressemble tous. Ils ont vu mes sourcils, je pense qu'ils m'ont pris pour François Fillon.
Alors revenons à votre invasion. Évasion. Sur laquelle vous ne vous êtes pas trop
étendu. Au bord du Barmount, comme Juliette.
Ça va pas du tout. Bon, vous ne vous êtes pas trop étendu hein, sur cette évasion, ce départ en jet privé dans une malle prévue pour du matériel de musique. Votre femme n'était pas au courant?
Tout à fait, ma femme n'était pas au courant. Excusez-moi.
Allez-y.
C'est un instant, je vais vous m'excuser. Mm-hmm. Allô?
Allô? Oui, allô Carlos, oui. C'est Patrick Balkany à l'appareil. Dis-moi, écoute, je compatis, hein. Ton histoire là de mal, de mal de musique, d'instrument, là, ça m'intéresse. Est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, les dimensions exactes de la boîte, ça m'intéresse.
Écoute Patrick, attends 2 secondes parce que je m'éloigne. On écoute, pour être confortable dedans... Écoute, tu comptes 3 sur 2, 3 mètres sur 2, tu prends une malle qui contient des amplis. Okay, à la base,
3 mètres moi j'ai sur pris... 2, c'est bien noté, Carlos.
Moi, j'avais pris...
reste en ligne, 2 secondes, j'appelle Isabelle. Isabelle, oui, c'est moi. Écoute, je viens d'avoir Ghosn là au téléphone. Est-ce que tu peux appeler les Rolling Stones, s'il te plaît? Voir si ça les brancherait de faire un concert privé à la prison de la santé. Si. Alors, écoute, non, sinon, je dois avoir aussi le numéro de Rihanna dans mon calepin. Tu sais, le relié en cuir, là, le petit, là, qui est toujours sur ma table de... Voilà. Non. Mais non, Rihanna, c'est juste une copine. Écoute, commence pas, c'est pas le sujet. Bon, attends, 2 secondes. Attends, je reprends Ghosn. Oui, Carlos, merci encore. Hein.
Oui.
tiens, juste une chose, quoi qu'il arrive, surtout n'engage pas. N'engage pas Maître Dupont-Moretti, c'est une catastrophe. Bon, je t'embrasse. Hein.
Okay.
J'ai,
bon, si.
J'ai envie de te dire, pardonne-moi, j'ai envie de te dire big bisous, Carlos.
Oh là là, vraiment.
Oui, ça ne fait pas merde, non, mais je comprends. Allez, 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 je te dis à bientôt.
Non mais qui arrive là à...
Pardonnez-moi de m'immiscer. J'adore m'immiscer.
Oui, oui, oui. Alors, monsieur Sarkozy, dites, il y a du nouveau. Hein, pour vous, vous serez jugé pour corruption dans le cadre de l'affaire des écoutes.
Oui. Justement, j'entendais Carlos Ghosn et Patrick Balkany sur votre radio de jeunes.
Oui.
Et je me demandais s'il n'y avait pas un étui à violon qui traînait. Oui, mais écoutez, j'ai pas besoin d'une énorme malle. Juste une valisette pour un cornet à piston, il suffirait, vous savez. Bon, mais si j'enlève mes chaussures avec une talonnette, je tiens à l'aise.
Ah ben, bonne chance alors.
Ça prie, je vais faire les essais.
Ouais, dis donc.
Sinon, peut-être le docteur Laurent Alexandre peut me faire une petite boîte.
On va lui en parler, on va lui demander. Le prince Harry et Meghan Markle décident donc de renoncer à leur rôle de premier plan dans la famille royale britannique.
Oh,
ils veulent s'installer en Amérique du Nord. Stéphane Bern, mais vous avez bondi à l'annonce de cette nouvelle.
Non. Alors là, ma Julie, je suis colère, je suis chafouin, je suis courroux. Non, Meghan et Harry, vous entendez Amblin. Oh, mon Dieu, Meghan et Harry qui démissionnent. Ils démissionnent de leur famille, en quelque sorte. Voilà, c'est cela. Écoutez, je peux comprendre qui n'a pas eu envie de démissionner de sa famille, hein, surtout pendant la période des fêtes, hein, franchement, et de se réfugier à 10 000 km de là.
Oui, bon, enfin, c'est un peu ça, quoi. Mais...
Bah, écoutez, il y a des tas de gens qui démissionnent de leur famille. Regardez, Xavier Dupont de Ligonnès, par exemple. Enfin, non, lui, c'est plutôt l'inverse. Il a plutôt licencié toute sa famille. Je ne sais pas si j'ai le droit de rire là-dessus.
Non.
Voilà. En tout cas, Meghan et Harry quittent leur emploi qui consistait quelque part à faire rien. Et la famille royale est totalement démunie. Il ne reste pendant des comptes plus que Charles et William pour remplir cette mission formidable qui consiste à faire rien.
Comme vous dites. Merci Stéphane. Et consolez-vous, hein, ça va aller. Allez, on va parler maintenant de l'opération Pièce jaune. Brigitte Macron et Didier Deschamps ont lancé cette opération, vous savez, pour aider les hôpitaux à accueillir les familles. Bonjour Didier.
Oui, à partir de là, bonjour. Oui, bonjour et puis également bonne année à toute votre équipe,
hein,
mes meilleurs voeux à tout le monde. Écoutez, oui, je crois que avec Brigitte Macron, on a lancé cette donc opération Pièce jaune. Bon, vous savez, le sujet des hôpitaux préoccupe beaucoup le couple Macron. D'ailleurs, vous aurez noté qu'ils se sont répartis les tâches. Hein.
C'est-à-dire
que l'an dernier, lui, Emmanuel, a supprimé 960 millions d'euros sur le budget de la santé, hein, des hôpitaux. Et puis du coup, elle leur redonne, pour compenser, 29 centimes. Chacun travaille à sa façon.
Et alors, vous êtes très investi dans cette cause. Hein?
Oui, oh, ben, j'espère que je serai aussi efficace que mes prédécesseurs. Hein. David Douillet, par exemple, ils ont un grand souvenir de David Douillet. Ils ont récolté beaucoup de fonds grâce à David. Hein. Ah ben, avec David, il te regardait du haut de ses 2,08 m. Hein. Il te regardait dans les yeux, le gars tout de suite sortait la monnaie. Hein. Il rajoutait même un petit billet dans la foulée.
Oui, bon, ben, c'est bon, on vous laisse et on souhaite un bon succès à cette opération. La situation est terrible en Australie. 500 000 millions d'animaux sont morts depuis le début des incendies. D'autres, comme les dromadaires, entrent dans les villes et ils sont abattus. Les écologistes sont terrifiés, ils alertent sur la situation.
Oui, vous reconnaissez. Bonjour, madame Julie. Écoutez, c'est bonjour à toute votre équipe. C'est un véritable drôme.
Oui, madame.
C'est un drôme. Et pourtant, beaucoup de gens ne comprennent pas toujours l'ampleur de cette catastrophe. Hein, sauf le docteur Laurent Alexandre. Hein, l'ampleur du problème. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire preuve de pédagogie ce matin.
Très bien.
De dire. Oui, voilà. Bonjour. Mais ça, je passera bien avec ce générique de 30 millions d'amis. Bienvenue dans 30 millions d'amis. Enfin non, c'est plus tout à fait 30 millions. Du coup, c'est trois amis, puisqu'il ne reste plus en Australie qu'un ornithorynque, un koala et un dromadaire. Et que nous avons...
Oh là ! Oh, mais quelle horreur ça...
Oh. Oui. Alors, petite mise à jour, il ne reste plus qu'un ornithorynque et un koala.
Ah bah oui, le dromadaire.
Regardez comme ces deux animaux sont majestueux. Et c'est vrai que...
Là.
Ah ben non,
Oh, mais merde alors, mais non. Oui, donc il ne reste plus qu'un ornithorynque maintenant. Et donc, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que nous avons cet ornithorynque qui est magnifique. Et qui... Non mais vous êtes cons ou quoi? C'est pas un dromadaire, c'est un ornithorynque, bande de cons. Gros bourrin. Bon ben ça y est, il y a plus d'amis. Donc bienvenue dans 0 million d'amis, hein, une émission qui plaira à Laurent Alexandre, j'en suis sûr. Vive l'Australie.